One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Magie Tcherfi.
Je suis Rafi Pitts.
Et ce soir, il nous entraîne à la fois dans un western du désert et dans une génération carte de séjour.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture sert à tout, même à se laisser pousser des nattes. Lundi, Nicolas Sarkozy a lâché une petite phrase, que dis-je, une punchline mitonnée pour prendre l'avantage dans le combat des chefs qu'il oppose aux autres candidats à la primaire de la droite et du centre.
Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois.
Partoutatis, Belenos, Lugues et Cernunos, mais qu'est-ce qui lui a pris? Les explications les plus farfelues me sont tombées sur la tête. Voulait-il se démarquer des cathos tradis en réaffirmant sa croyance en une France aux racines polythéistes? Voulait-il, comme les révolutionnaires de 1789, reprendre à son compte les Gaulois pour dire sa haine de l'aristocratie, jadis associée aux impérialistes romains? Ou voulait-il nous reconnecter maladroitement à la race germanique, comme quand on agitait joyeusement le casque à ailettes au temps béni des colonies et du régime de Vichy? Ou alors, entendait-il annoncer un changement de dress code et qu'il abandonnait les Ray-Ban et le rasage présidentiel au profit d'une moustache et de petites nattes qui lui donneraient l'air d'un agriculteur bio? Mais peut-être Nicolas Sarkozy réclamait-il subtilement un bouclier pour se hisser plus haut lors des prochains meetings, à moins qu'il n'ait simplement chanté son amour pour un vieux roman, le roman national, vous savez, celui qui a fait rêver et attiré tant d'hommes et de femmes, pas forcément dupes des pages sombres de l'histoire de France, mais néanmoins désireux de s'approprier ses héros sans peur et sans reproche, son coq orgueilleux et ses rois qui se déplaçaient en char à bœuf. Ou alors, sensible à la hype de PNL, Nicolas Sarkozy a-t-il adopté le style gangster d'un autre rappeur, Vald, après avoir écouté son titre Partoutatis?
Sors le bourbon, j'arrive dans mes bourgeons très, je braque les fourgons de la brise, savez-vous qu'on pèse tout?
Trêve de confiserie, l'histoire de France d'Ernest Lavis est rééditée à la librairie des écoles et puis l'intégrale d'Astérix est disponible chez Dargaud. Alors Magie Tcherfi, en parallèle à l'écriture de votre roman, au titre quand même qui résonne singulièrement avec cette actualité, Ma part de Gaulois, récit chez Actes Sud, est-ce que vous êtes aussi un ghostwriter, un nègre pour Nicolas Sarkozy?
Je sais pas, mais en tout cas moi, dans Ma part de Gaulois, il y avait quand même une espèce de parfum d'humour.
Oui, vous dites, vous parlez de l'extravagance de ses ancêtres gaulois.
Oui, parce que quand on était môme, on a aimé ce récit, ce roman. On venait du Maghreb, d'Afrique noire. On nous disait, bon, ben alors voilà, vos ancêtres sont gaulois. Ils étaient blonds, tressés, sympas. Et c'est ça qui est génial dans l'enfance, c'est qu'on dit oui, parce qu'on vous offre un arbre généalogique. On nous dit, voici la famille et bienvenue. C'est après qu'on se dit, merde, on m'a trompé.
Comme dirait Richard. Richard Virenque, si tu nous écoutes. Magie Tcherfi, vous dites, nous ne sommes pas dans le récit français. Hein. Il y a ce non-dit omniprésent. Si vous pouviez vous tirer tous, nous n'en serions pas fâchés. C'est ça qui est quand même aussi ironique dans Ma part de Gaulois. Vous, Rafi Pitts, cinéaste iranien, vous avez émigré à Paris, puis à Londres. Vous dites qu'à l'école, vous étiez perçu comme un terroriste. Et finalement, c'est pas tant cette mise à l'écart qui vous a surpris, mais peut-être plus le fait qu'elle vienne de la France qui vous a choqué.
Je pense que c'est quand même la folie de l'homme. La folie de l'homme de penser que chaque individu représente une nation. Je trouve ça incroyable. Parce que moi, ce qui me fascine chez les gens, évidemment, j'aime les langues et j'aime les cultures, mais de là à croire qu'un individu peut représenter tout un monde, je trouve ça hallucinant. Et on est en plein dedans.
Et vous disiez quand même que c'était la patrie qui avait accueilli des opposants comme Bakhtiar, hein, qui sera assassiné dans les années 90, et que c'était étonnant, venant de cette France, comme s'il y avait la géopolitique d'un côté, puis la vraie vie sociale de l'autre.
Oui, je veux dire, le monde a changé. Hein, plus on avance, plus on le simplifie. Et plus on le simplifie, plus elle devient dangereuse. C'est ça qui me gêne, parce que finalement, les hommes politiques, ils s'amusent à simplifier tout pour gagner des voix. Et plus ils simplifient, plus ils le rendent dangereux, plus ils font des séparations entre les gens, et plus ils cherchent à définir les gens comme une masse. Et une masse, pour moi, n'existe pas. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est les individus, c'est leur complexité. Sinon, je tournerais pas des films. C'est ça qui est beau chez l'homme, c'est qu'il est complexe. Et pourquoi le simplifier? Pourquoi faire ça?
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. C'est sur France Culture.
Name? Maldonado. First name?
Nero.
Where are you from, Nero?
South Central Los Angeles.
Now this is not for violence, okay? I'm using this to establish a boundary.
From another mother.
Is this your place?
Claro.
I'm going to join the army.
Why would you want to join the army?
To fight for the country and become an American citizen.
You think I'm going to go get a fucking gun? I'm going to become G.I. fucking Joe?
Soy Nero de Rafi Pitt, ça sort aujourd'hui au cinéma en France, un film entre deux frontières, entre deux checkpoints. On a d'un côté la frontière entre les États-Unis et le Mexique, de l'autre côté la frontière afghane. Et il y a ce combat, finalement, entre aussi deux films. On suit un personnage qui est ce Nero, qui est notre fil conducteur. Et ce qui est intéressant, donc, sur ces deux territoires que vous avez choisis, c'est que finalement, c'est la première fois que vous êtes contraint, finalement, de filmer en dehors de chez vous, puisque vous avez été contraint à l'exil, donc banni de l'Iran après votre précédent film. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait de devoir, finalement, filmer l'extérieur, d'en être contraint? Est-ce que, finalement, c'est pas devenu quelque chose de très positif et justement, peut-être, le choix le plus évident a été de vous retrouver à nouveau dans une frontière?
En fait, quand je tourne, ou plutôt quand je pense à une idée de film, évidemment, ça part de moi. Ça part peut-être de mes problèmes personnels, mais ça, ce n'est que le début d'une histoire. À partir du moment où je cherche à cerner les problèmes qu'il y a en moi, donc les problèmes d'identité, qu'est-ce qu'est l'immigration, parce que c'est des choses qui se rejoignent quand même, l'appartenance aussi, c'est quelque chose qui le rejoint. Donc c'est des problèmes que j'avais en moi. Mais pour tourner ma propre vie, je m'en fous un peu. Parce que moi, je suis cinéaste, donc j'ai de la chance. Je fais des films, j'ai beaucoup de chance. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance. Donc je cherche toujours à raconter une histoire qui est beaucoup plus importante ou beaucoup plus grand que mon propre existence. Et en ça, je vais chercher ailleurs, mais toujours ailleurs. J'ai choisi les États-Unis parce que c'est le pays d'immigrés par excellence. C'est le seul pays au monde qui est fait d'immigrés. Parce que les seuls gens à qui appartiennent les États-Unis, c'est les Indiens de l'Amérique du Nord. Donc j'ai choisi les États-Unis pour ça. J'ai choisi l'histoire d'un Mexicain qui est expulsé, parce que, chose qu'on ne le sait pas, c'est qu'après le 11 septembre, sous le Patriot Act, Bush a fait passer le Patriot Act, et il a expulsé beaucoup de Latinos qui vivaient en Californie. En échange, il leur a dit, si vous voulez rester, vous pouvez rejoindre l'armée. Et si vous vous battez pour l'armée américaine, au bout de 2 ans, on vous donnera la nationalité. Et si vous êtes mort aussi, on vous donnera la nationalité. Donc, une violence terrible. Et là, je pouvais pas m'empêcher de vouloir raconter cette histoire, mais c'est parce que c'est une histoire aussi qui, pour moi, à travers le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je dis le pays des immigrés, parce que finalement, les États-Unis, il y a tout le monde aux États-Unis. Le monde entier est représenté là-bas, et c'est peut-être pour ça qu'on s'intéresse aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que c'est l'histoire d'un Latino qui cherche à devenir américain, mais en même temps, je pose toujours la question, est-ce que tous ceux qui sont considérés comme des immigrés par les grandes populations, alors qu'ils ont vécu peut-être toute leur vie dans un pays, n'ont pas ce même problème?
Mais à cet égard, Rafi Pitt, il se trouve que, il me semble que votre personnage, il incarne parfaitement la phrase que Majid Cherfi a mis en épigraphe à l'orée de sa part de Gaulois, de son récit. Cette phrase, c'est « L'exception française, c'est d'être français et de devoir le devenir. On demande aux enfants d'immigrés qui sont français de devoir devenir français. » Au fond, c'est même pas l'exception française, là, c'est, oui, c'est aussi le cas aux États-Unis.
Le cas aux États-Unis est différent, c'est que, je veux dire, différent.
Votre Nero, il est américain, il est Angelinos.
Non, même chaque pays, finalement, c'est. Mais ça, c'est plutôt les politiques qui ont rendu le monde comme ça. Parce que, quel dommage. Je veux dire, il y a une richesse avec le multiculturalité du monde. Il y a une richesse. Donc pourquoi s'en passer comme ça? Pourquoi on devrait demander à quelqu'un qui apporte quelque chose de ne pas donner, de ne pas proposer? C'est quand même dommage. Pour moi, ce qui est beau chez l'homme, je veux dire, on parle de ces idées d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée d'une identité? C'est vrai que pour moi, les langues sont formidables, les cultures aussi. Mais les langues et les cultures, c'est un moyen d'expression. Ça représente pas un individu. Quand on parle de l'identité, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On simplifie tellement un individu. C'est pour ça que je trouve qu'il n'existe pas. Parmi mes amis français, je peux pas dire qu'il y en a un qui représente la France. Ce serait absurde. Je peux vous le présenter. C'est un ami qui vient de la France. Et pour moi, c'est ça qui est beau. C'est qu'en France, il y a 65 millions de personnes, 65 millions d'individus, tous avec leur vie, avec leur parcours. Donc, cette différenciation qu'on fait sans cesse à dire immigré, je veux dire, après, on a parisien, marseillais, les frontières dans la tête des gens ne s'arrêtent jamais. Et je trouve que ça fait partie de la folie de l'homme. Et je pense que, j'espère que la jeunesse est au courant de ça et qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les vieux qui pensent qu'il faut retourner des siècles en arrière.
Majid Cherfi, vous racontez aussi, vous, comment vous avez dû concilier les identités maghrébines, toulousaines. Mais il y a quelque chose qui est en écho avec le film de Rafi Pitt, qui est la fausse promesse de la République, on va dire, ou de l'État. C'est-à-dire que aux États-Unis, si on s'engage, effectivement, on pourra, au retour, si on n'a pas été tué, avec un peu de chance, obtenir la nationalité américaine. Et au moindre dérapage, c'est une nationalité qu'on vous retire. Vous nous racontez aussi cette histoire qui est une France de 1981, à qui on promet le droit de vote pour les étrangers. Bon, ça n'arrivera pas. On passe son bac, on est d'une génération d'enfants d'immigrés qui passent son bac pour la première fois, et vous vous rendez compte qu'en fait, ce bac, ce qui pourrait être ce qu'on appelle le Dream Act dans le film de Rafi Pitt, ce dream back, ça n'existe pas. En fait, on est prêt, y compris quand on a manifesté, comme c'est votre cas, contre le Front National, on est prêt à vous retirer la nationalité. On sent comme ça que ça peut vous rééchapper. C'est ça que vous vouliez montrer aussi, cette fausse promesse?
Oui, absolument. J'ai voulu montrer... on vous demande quelque chose que vous n'y accéderez jamais. Et alors il y a une espèce de schéma comme ça qu'on appelle ou l'assimilation ou l'intégration. Alors selon les uns, c'est parler français, c'est avoir un prénom français, c'est chanter la Marseillaise. Alors, ils inventent des schémas qui sont en fait de fausses pistes, mais en réalité, tu n'y arriveras jamais. Et moi ça je l'ai compris quand je me suis présenté. Il y avait les attentats de Charlie Hebdo. Il y avait les manifs républicaines à Toulouse, et bon, moi je suis né à Toulouse, je suis français, républicain, je suis tricolore, patriote, et j'ai fini par le dire, oui j'aime la France plus que tout, et alors j'emmerde les rebeux, parce qu'il y a toujours cette espèce de résistance, tu vas pas aimer la République, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Je vais manifester, et je me retrouve avec des copains de gauche, qui me regardent l'œil effaré, et ils me font, mais vous êtes où? Ils parlaient à un rebeux. Ils voulaient des Arabes, ils voulaient des musulmans. Et tout à coup, moi, leur pote français athée, au nom de la République, il fallait que je sois musulman. Mais bien sûr, je ne deviendrai jamais français. Parce que la République, elle, dans son manège, elle veut qu'à un moment donné, je sois musulman, puis qu'à un autre, je sois républicain, puis qu'à un autre, je sois français, à un autre... Non, mais il faut que vous alliez dans les mosquées, parce que ça fait respect des traditions des uns et des autres. Puis un autre, voilà. Et donc c'est une espèce de va-et-vient infini, et on n'y trouve jamais son compte.
Et à vous lire, justement, Majid Cherfi, ce qui est assez fascinant, provoquant, dérangeant et totalement séduisant, c'est que vous êtes toutes ces identités et aucune à la fois, parce que vous êtes juste Majid Cherfi. Ouais. Et c'est aussi, quand vous parlez de l'importance de l'individu, de la singularité, et ce qui nourrit votre cinéma, Rafi Pitt, avec ce personnage donc de Nero, qui rêve au Dream Act, c'est quand même extraordinaire, cet acronyme américain donc de cette proposition de loi portée par un démocrate et un républicain, de permettre aux enfants étrangers ayant grandi aux États-Unis d'acquérir la nationalité, après avoir notamment servi donc dans l'armée, une loi d'ailleurs qui n'est jamais passée. Vous emparez de ce Dream Act au sens propre ou alors au sens figuré, qui est celui du rêve de votre personnage. Et un rêve, c'est toujours le rêve d'un seul individu.
À chaque fois que vous dites Dream Act, j'essaie d'imaginer le visage du type, l'homme politique qui est arrivé avec ce titre. parce que c'est quand même hallucinant.
Développement, relief.
Bah, c'est, je sais plus ce que c'est comme acronyme. Patriot Act, donc un truc très comme ça, nationaliste, tout ça. Patriot Act, on expulse. Et après, Dream Act, pour recruter des jeunes gens pour qu'ils aillent faire la guerre. Ça, c'est devenu le rêve d'aujourd'hui. C'est donc, c'est le rêve de qui? Le rêve de l'homme politique ou le rêve du jeune? Parce que le Dream Act, si vous regardez les gens qui sont morts dans le front en Afghanistan, la plupart des morts américains, c'est des latinos, sous le Dream Act. Donc c'était ça le rêve, mais le rêve de qui? Le rêve de l'homme politique ou le rêve du jeune qui se retrouvait là-dedans? Et puis peut-être qu'au fond, les jeunes, quand ils rejoignent une armée, pour l'amour qu'ils ont pour un pays, et je pense qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde, hein, je pense qu'en France c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui se battraient pour la France, qui viennent d'endroits différents, qui s'estiment français. Il y a quand même des générations et des générations qui s'estiment français et qui vont se battre pour ce pays. Mais pourquoi on les sépare comme ça? Sous quel... Je veux dire... Je voudrais que les auditeurs se rendent compte quand même qu'il y a des gens qui aiment ce pays, il y a des gens qui aiment leur pays, parce que quand on grandit dans un endroit, quand on grandit dans un quartier, c'est chez nous. Et voilà. Et on se battra pour ce quartier, on se battra pour cette ville, et on se battra pour ce qui est plus grand que ça. Mais pourtant, l'homme politique a trouvé un petit filon. Il se dit, tiens, si je fais en sorte qu'ils se battent entre eux, peut-être que je vais gagner des voix. Et ça, pour moi, c'est une crime. Trump en est aujourd'hui aux États-Unis le porte-parole de ça. Sarkozy, il en fait pas moins, parce que Gaulois, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce qu'on n'est pas en 2016? C'est la grande question que je me pose. C'est que souvent, quand j'entends parler de
son rêve aussi à lui.
Bah, son rêve à lui.
Vous n'avez pas des ancêtres gaulois, vous, maintenant, à Rafipitz? Avec des ancêtres Cherokee et...
Mais moi, je viens d'un père anglais, d'une mère iranienne, d'un beau-père français. Aucun des trois était d'accord d'où je venais. Donc, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude.
Mais ce qui est terrible. Pardon. Ce qui est terrible, c'est que si on veut aller au fond, on regarde Nicolas Sarkozy. Jusqu'au fond. Et il dit, voilà, moi, mon père est hongrois, mon grand-père est grec, donc il est en train d'expliquer le monde dans lequel on est, donc qui est fait de mélange. Oui. Et au fond, c'est comme un vœu pieux, mais au fond, si vous saviez comme j'aimerais que ce monde soit pluriel et cosmopolite, mais il faut raconter une autre histoire pour gagner. Et donc, ces gens-là, ils se battent contre eux-mêmes. Il y a un vœu pieux, mais ça paye pas, ça marche pas. Donc il faut raconter une histoire de blanc parce que là les gens vont s'y retrouver.
Mais c'est ce que
justement c'est dans le film ça. Ouais.
Mais c'est ce que je leur reproche aussi, c'est que je pense que Sarkozy il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Comme vous venez de le dire, effectivement il est hongrois, il a des racines différentes, il parle des Gaulois, mais c'est parce que ce n'est uniquement que par but politique. Ça n'a rien de Je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est l'idée qu'aujourd'hui, en divisant, on peut gouverner. La classification et la simplification. La
mais un mot justement de cette idée de boundaries, les frontières, pour parler en français et en bon français, je ne sais pas.
En gaulois, disons-le.
En gaulois, allons-y. C'est le thème, effectivement, du film. C'est un mot qui revient dans le discours des personnages qui ont la nationalité américaine visible, on va dire. Et il y a cette idée qu'ils vont s'auto-convaincre en permanence de la normalité de la situation, c'est-à-dire de vouloir défendre des frontières, de vouloir tenir quand même l'Amérique, que ça ne déborde pas, etc. Est-ce que vous, qui avez quand même écrit le scénario, je crois au moins 3-4 ans avant de tourner, est-ce que justement c'est quelque chose que vous avez ajouté parce que vous l'avez observé?
Quand j'ai fait le film...
Cette méthode Coué dont parle aussi.
Non, mais c'est... Évidemment, quand on fait un film, c'est pour ça que je disais que ça démarre avec moi. Mais ce que je trouve beau dans un film, c'est que plus on avance, plus un film se peuple. Et il se peuple de d'autres gens qui vont exprimer aussi leur point de vue. Pour moi, ce qui était très important quand j'étais là-bas, c'était d'avoir le point de vue des Mexicains et d'avoir le point de vue des Américains sur leur propre pays et sur leurs propres conditions. Parce que je voulais pas trahir l'histoire. Il serait présomptueux de ma part d'écrire quelque chose à Paris ou à Berlin et après de vouloir l'imposer sur des gens qui vient de chez eux. Donc pour moi, ce qui est beau dans le cinéma, c'est que je vais apprendre de mes personnages. Et donc c'est eux qui, petit à petit, vont rajouter à l'histoire et qui vont aller au-delà du scénario et qui vont corriger le tir. Parce qu'au fond, ce qui est très important dans un film, c'est de respecter le sujet qu'on est en train de filmer et de pas étouffer le sujet qu'on est en train de filmer. Donc, tous ces personnages, que ça soit les Noirs américains et leurs problématiques à eux, qui discutent de rap et qui sont de quartiers différents, un est de l'Est, l'autre est de l'Ouest, ou que ça soit le Mexicain ou que ça soit l'Américain vétéran. Lui, quand il parle de son pays, celui qui est avec la voiture, avec la petite fille, lui, quand il parle de son pays, en tant que comédien, il est en train d'exprimer aussi sa douleur à travers ce qu'il est en train de voir à l'intérieur de son pays. Donc si l'histoire trouve une résonance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ces acteurs-là se sont exprimés en 2015 au moment du tournage et ils ont corrigé le tir par rapport à ce qu'ils ressentaient à l'intérieur d'eux-mêmes.
Oui, il y a ce scénario, il y a ce peuple des personnages, Rafi Pitz, de ces acteurs, de ces actrices, mais il y a aussi toute cette dimension documentaire de votre film, notamment ce moment assez étonnant, ces images de nuit du Nouvel An à la frontière américano-mexicaine. Et puis, il y a cette frontière qui est à la fois bien réelle et qui est imaginaire, qui fait tant fantasmer et qu'évoquait Mathilde, qui est la frontière avec l'Afghanistan, cette sorte de no man's land, qui est pourtant peuplée de tas de personnages différents, des soldats en armes, des familles. Parlez-nous de cette frontière qui est magnétique, qui aimante tellement l'imaginaire des cinéastes américains, des cinéastes français, en particulier des pays qui sont engagés dans des conflits à cet endroit-là.
Bah, dans la partie que j'appellerais plutôt la partie du Moyen-Orient, parce que j'ai pas vraiment voulu le définir avec l'Afghanistan ou l'Irak, en l'occurrence. On a fait en sorte, d'ailleurs il y a une petite blague pour mon équipe en Iran qui me manque parce que je suis plus rentré là-bas. Au fond d'un plan, on voit marqué en persan « nulle part à 100 km ». Parce que je voulais pas non plus donner une identité précise.
Donc
à
c'est
cet
votre
endroit
frontière
dans le
Moyen-Orient. Aussi,
ouais. Parce que je voulais surtout montrer la folie dans laquelle l'homme se trouve à chaque côté de la barrière et comment il peut se perdre à l'intérieur de ça, et comment l'homme n'arrive pas à communiquer avec l'autre. Il y a un soldat qui danse autour d'une voiture. Quand il danse autour de cette voiture qui vient d'arrêter, il se rend pas compte qu'il est en train d'insulter ceux qui sont dans la voiture. Lui, il veut leur faire plaisir, mais eux, ils ont peur de lui. Donc c'est cette communication, le mur de la communication, et à quel point on devient aveugle avec les murs qu'on a devant nos yeux, plutôt que de comprendre ce qu'est l'autre.
C'est vrai qu'il y a donc le cinéma qui va apporter ce recul de la fiction sur ces territoires dont on entend parler comme ça de manière lissée par l'actualité ou par les chaînes de télévision. Mais il y a en fait du coup aussi ce travail que vous faites au-delà de l'image qui est très belle d'un désert à l'autre finalement, celui du Mexique et puis celui de l'Afghanistan, ce travail sur le scénario. Justement, je crois que vous êtes aussi partie d'un travail de fable à l'iranienne parce que vous avez décidé d'ouvrir le film sur l'histoire d'un éléphant et d'une fourmi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça?
L'éléphant et le fourmi. Je pense que les histoires tragiques doivent toujours commencer avec l'humour. C'est l'histoire c'est un jeune mécano qui va nous raconter qu'il dit un jour un éléphant et un fourmi se sont rencontrés sur un chemin. Ils sont tombés amoureux, ils sont sortis en boîte. La nuit, ils ont baisé comme des malades. Le matin, quand le fourmi s'est réveillé, l'éléphant était mort. Et là, le fourmi s'est dit, pour une nuit d'amour, il faut que je creuse un trou pour le reste de ma vie. Alors il y a ça qui démarre la chose. Et après, il va pointer un hélicoptère qui passe sur le frontière et il va dire « ça c'est l'éléphant, l'hélicoptère, et vous, vous êtes tous des fourmis. » C'est un peu l'autorité et ce qu'on est au fond.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui ne prétend pas faire autorité et qui aime vivre comme une petite fourmi et sauter les frontières avec ses invités Majid Cherfi pour son roman Ma part de Gaulois et Rafi Pitz pour son nouveau film Soy Nero.
Ping Pong. La culture sans limite.
Si votre film Rafi Pitz est tenté par le post-punk du musicien new-yorkais Riz Chatham et que votre plume Majid Cherfi et parolier de Zebda mais aussi romancier que vous êtes se revendique de l'influence combinée des clashs de Madame Bovary et de Jean-Paul Sartre, notre live de ce soir entend avant tout tisser des fils entre les univers et les identités musicales. La chanteuse et songwriteuse Oum nous entraîne dans un hommage musical aux tisseuses de tapis Mme Hamid, en partie enregistrée enregistré dans le désert sud-marocain, un tissage moiré de couleurs jazz, de profondeur soul, de sonorités orientales irisées, portées par des chansons en darira, écrites et composées par Oum, un disque brûlant, troublant, comme un désert sans frontières. Et ils sont en live avec nous, Oum.
لقيت نفسي فين بقات وقيت زوين من دوك لوقات سقيت روحي ذكريات وسكرت وصحيت وشي ما لقيت
contrebasse, percussion orientale tissée par la voix de Oum qui fête les 1 an de son album Zarabi. Ce sera à la Cigale, donc le 22 septembre, demain soir.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Et à présent, eh bien, on vous propose de plonger dans une tranche, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, dans l'enfance de Majid Cherfi, dans ce récit « Ma part de Gaulois » publié chez Actes Sud.
Pour de vrai, tout n'a pas été coloré de noir dans la piole à Jules Ferry. Quand j'y pense, je me dis qu'on a vécu l'extravagance. Et cette extravagance a débarqué quand on nous a tout de go annoncé que nos ancêtres étaient gaulois. Eh, le croiriez-vous ? On a aimé, on n'a pas détesté ce conte de fées. La balade des schizophrènes a commencé là et on n'avait pas 10 ans. Il faut dire qu'à l'intérieur de nos chaumières, on racontait les Français dégueulasses, torsionnaires et mangeurs de porcs. À l'école, ces mêmes porcs nous raccrochaient à un incroyable arbre généalogique appelé France. À cet âge, on n'a pas détesté appartenir à la grande famille. C'était presque le sentiment de ne plus être orphelin. Enfin, des réponses soulevaient la chape pour un éclaircissement de la genèse. On ne savait rien de l'Algérie, si ce n'est la guerre d'Algérie. En guise de socle, nos parents nous offraient leur lutte, et pour peu qu'ils n'aient pas été des martyrs, ne restait plus que le mythe d'un peuple héroïque. Et on trouvait ça troublant que nos vieux aient été un temps des héros gigantesques, et puis... sous nos yeux, de pauvres analphabètes atterrés qui nous intimaient l'ordre de ne jamais quitter l'ombre de tous les platanes, de ne pas faire de vagues sous peine d'être renvoyés comme de vulgaires chahuteurs. Et 3 formules consacrées nous étaient donc destinées, chute, tais-toi ou ferme ta gueule. Ou plus exactement, ferme ta gueule. On a été français un temps, le temps de la petite école qui nous voulait égaux en droit. Et on a aimé ce nous qui nous faisait frères avec les cheveux lisses. On ne savait rien d'une quelconque histoire nous concernant. Pas la moindre référence d'un grand homme de lettres, d'un poète, d'un peintre, d'un architecte de Béjaïa ou d'Alger. Rien d'un sportif de Sidi Belabès ou d'un exploit auquel s'identifier. Alors, on s'est agrippé aux contes gaulois, aux pages pleines de héros blonds aux yeux d'émeraude, et on trouvait ça chouette d'être blond, d'avoir les yeux bleus. Et on pensait que peut-être on pouvait le devenir, comme on trouve la foi à force de prière. Qu'il était beau le rêve, être français, tout doucement, par couches successives, sans effort, et un beau jour, « Bonjour Mohamed !»« Non, moi c'est Jean-Philippe, comme Johnny !» Le temps de la petite école, on a aimé Jésus qui avait le cœur sur la main, on a aimé Noël, Pâques et Mardi Gras, que des fêtes sympas. On a même préféré les cow-boys aux Indiens, ces barbares au visage peint qui vous coupaient les couilles et la mèche. On préférait John Wayne. Et on ne savait pas à l'époque que les sauvages étaient nos frères. On ne savait pas qui on était. Oui, un temps, qu'est-ce qu'on a aimé être français.
Majid Cherfi, lisant lui-même ses œuvres, « Ma part de Gaulois », votre récit donc publié chez Actes Sud. Majid, on vous appelle aussi Galabru, Walter Hugo, ou plus sobrement PD dans le quartier. Parce que...
Et Strummer aussi.
Et Strummer, entre autres. Hein. On vous appelle même Gilles quand ça dérange de vous appeler Majid. Et il se trouve que vous êtes tous ces personnages-là à la fois. On le disait tout à l'heure, mais j'y reviens. Et vous n'êtes aucun d'eux parce que à la fois vous êtes inquiet de devenir étranger au vôtre, et on le sent dans les contradictions et toutes les bifurcations que prend le récit et la pensée de votre narrateur, et votre mère, à qui vous dites « Maman, j'ai peur de devenir ton ennemi », elle vous répond « Sois mon ennemi, mais sois ».
Et oui, c'est un peu tout le paradoxe, c'est que cette femme qui était ma mère, elle a fait l'obsession sur la scolarité. Et toutes les mères n'étaient pas comme ça. Alors dans les quartiers, évidemment, c'est 7, 8, 9, 10, 11 enfants. Et toutes ces mères, elles sont comme ça à genoux du matin au soir. Et ma mère, elle trouve le temps d'aller 3 fois par jour à l'école et dit « Majid, Majid !» au prof, au proviseur, à l'institut, au curé, au toubib, à l'épicière, à sa fille. « Majid !» Et ces gens comprennent, il faut s'occuper de lui parce que je veux qu'il nous sorte de là. Je veux qu'il sorte de l'enfer. Et par moments, comme ça, je fais mes devoirs, elle fait sa prière, et je la sens qui doute. Et c'est là que je la trouve est-ce qu'il doit réussir ou est-ce que je dois croire en Dieu ? Lequel vaut le coup ? Elle est dans ce doute-là et je comprends que j'ai un rôle à jouer qui va me dépasser.
Et pour le coup, Majid Cherfi, est-ce que cette contradiction, vous n'allez pas la résoudre avec la littérature ? Finalement, la conciliation de tout ça, ce sera de croire en le dieu littéraire, le dieu littéraire qui est Flaubert, ouais. Celui qui est Victor Hugo, qui est Maupassant. C'est devenu ça, du coup, votre religion. Vous êtes dit, très bien, j'ai trouvé ma solution. Enfant, ça, c'est venu comment ?
Oui, parce que, si vous voulez, souvent on a dit, ah, ces immigrés, ils ont de la chance, ils ont une double culture. Mais nous, on est nés en France. Et moi, de patrimoine, mes parents, ils m'ont raconté 7 ans d'histoire, 54 et 62. Voilà tes histoires. C'est 7 ans, c'est la guerre d'Algérie, c'est du sang et du sang. Et donc, je regarde l'école française, elle dit, nous, on te propose 2000 ans d'histoire. Tu as des sculpteurs, des peintres, des musiciens, Flaubert, Balzac, Hugo, Gary, et je ne sais quoi, tu te dis, merde, mais c'est la lumière. Et donc, qu'est-ce que je choisis ? Mes parents, mais leurs blessures ou la lumière ? Et j'ai du mal à faire le choix, mais je choisis quand même. Je lâche ma mère parce que la lumière vaut peut-être plus que ma mère.
Et vous, Oum, Mathilde le rappelait, sautez allègrement, et on l'a entendu avec votre orchestre, les frontières musicales, les frontières du jazz, les frontières de la musique traditionnelle, de la musique traditionnelle marocaine en particulier. Et vous aimez aussi sauter les frontières pour vous produire à travers le monde, comme demain soir à la Cigale à Paris. Est-ce que vous vous sentez justement devenir étrangère au vôtre, même si vous travaillez ces racines que vous vous inventez aussi en allant les chercher dans le désert du sud marocain ? Est-ce que vous sentez parfois, ou on vous fait sentir que vous êtes l'ennemi des vôtres, et parce que vous êtes une femme libre ?
Je pense plutôt l'inverse, ça peut-être sembler gonflé ou paradoxal, mais pour l'instant, être une étrangère qui s'intéresse à la lumière, pour reprendre vos mots, Majid, la lumière est une voie aussi pour sauver ce qui nous déplaît chez nous. Donc moi, j'aurais fait comme vous, je l'aurais choisi d'abord parce qu'elle m'aurait donné les armes pour aller éventuellement consciemment, et après avoir appris des autres que la lumière nous fait rencontrer, ce qui a besoin d'être changé ou améliorer, on va dire, chez soi. Donc pour l'instant, j'ai cette chance-là. Et le fait d'avoir été introduite avec une musique dans laquelle, c'est vrai, je m'intéresse beaucoup à mes racines, mais dans laquelle j'invite aussi pas mal d'autres cultures différentes et d'autres musiques. Je suis entourée de Marocains, de Cubains, de Français, de Hollandais, d'Autrichiens des fois. Et on apprend comme ça tous ensemble. Donc mon histoire, par contre, est beaucoup plus récente. Et donc avec la musique, et donc vivre... Être une étrangère me rend plutôt service jusqu'à présent.
Et le projet, justement, de prendre cette image du tissage et de rendre hommage aux tisseuses, pourquoi vous l'aviez fait ? Parce que ça représentait ce que vous faites, vous, comme travail musical, ou c'était aussi un tissage d'identité dont on a essayé aujourd'hui d'apporter différentes couleurs ?
Alors, en effet, il y a le côté symbolique où se rejoignent les deux aspects dont vous parliez, c'est-à-dire assembler, mettre ensemble dans une même pièce unique et originale plusieurs éléments qui viennent d'endroits différents, qui ont différentes couleurs, différentes textures, ce qu'on fait un petit peu dans la musique, en tout cas la nôtre qu'on pratique. Il y a aussi cette symbolique d'introduire toutes ces émotions, ces sensations qui nous travaillent quand on est une tisseuse de tapis. Donc ça, c'est le côté symbolique, effectivement, qui colle très très bien à l'histoire de cet album. Mais il y a aussi le côté important pour moi, qui est le côté humain et pratique et social. C'est que ces dames qui sont donc Amhamid Rizlan, dans ce village éloigné dans le désert du Maroc, c'est leur moyen à elles d'exister, de s'exprimer accessoirement, mais aussi de gagner leur vie. Donc le jour où j'ai décidé de prendre le nom de Zarabi, c'était pour les faire présentes dans un rendez-vous comme celui-ci et de parler d'elles, parce que leur tapis voyage un petit peu partout dans le monde. Il y a un site pour ça. On envoie nos vêtements usagés, les nôtres, et on reçoit un tapis 2 semaines plus tard qu'on met dans notre maison avec tous nos souvenirs réunis, et on leur a permis de vivre quelques semaines
dans l'indépendance.
Absolument.
Rafi Pitz, il y a la lumière, mais il y a aussi les ténèbres de la difficulté quand on est étranger ou quand on se sent étranger ou quand on vous signifie que vous êtes étranger à, à grandir, à s'élever. On le sent dans le récit de Majid Cherfi, Ma part de Gaulois, il y a la colère de Majid Cherfi, et puis il y a ce qu'on appelle communément depuis les années 90 en France, la haine des garçons en particulier autour de lui dans son quartier. Lui, la colère a pu lui servir de fuel, de kérosène, de produits inflammables pour s'envoler, et la haine écrase les autres. Vous, c'est une question aussi à laquelle vous vous êtes confronté avec ce nouveau film, Soy Nero, avec ce personnage qui semble impassible, mais qui pourrait être emporté par la haine. Il y a une colère en lui ?
Une colère en lui, je pense que le film le dira. C'est-à-dire que c'est toujours la grande question que je me pose. C'est le monde dans lequel on vit. Est-ce que ce n'est pas ce monde-là qui est en train de fabriquer l'ennemi à tout va ? Parce que le fait qu'on le simplifie, le fait qu'on rejette l'autre sans cesse, qu'on rejette, que les gens qui veulent juste s'adapter, ils veulent s'adapter, mais avec ce qu'ils sont, pas ce qu'ils devraient être. Moi, je me souviens, ma mère me disait toujours, finalement, tu es anglais ou tu es iranien ? Et je lui disais, du café au lait, c'est du café ou du lait ? Le jour où tu décideras, je pourrai te dire. C'est un peu ça. C'est que, est-ce qu'on n'est pas en train de pousser la haine et est-ce qu'on n'est pas en train de créer des ennemis à tout va ? J'ai l'impression que ça s'accélère beaucoup ces temps-ci. Oui, c'est ça qui m'inquiète.
Que tu disais tout à l'heure,
c'est Majid Cherfi.
Le monde se complique parce qu'il y a tous ces brassages et les hommes politiques ont besoin de le simplifier.
Oui.
Et plus il devient complexe, et plus il faut des raccourcis. Oui. Alors le français, ben, il est gaulois, parce que sinon c'est rentrer dans des choses trop compliquées, oui. Et c'est la faute de l'homme politique, elle est là.
Ben, pour moi, c'est un crime, ouais. En fait. C'est un crime qui s'accélère. On devrait... Je comprends pas qu'on en soit arrivé là. Le danger, on le voit, le danger, parce que le monde change très très vite. La haine est en train de monter de toutes les bords. Il n'y a que les extrêmes qui sont heureux en ce moment. Personne de très heureux. Les extrêmes sont heureux, ils font la fête avec tout ce qui se passe. Parce qu'à force de simplifier, on pousse, ouais. on divise, et après on se flingue.
Mais justement, le dispositif du film, on l'a évoqué tout à l'heure, entre deux déserts et entre deux frontières. Quand vous nous montrez le mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et d'autre côté un checkpoint en Afghanistan, peut-être que... Pour la première fois, en tout cas, ça se fait peu au cinéma. On a aussi la juxtaposition de la réalité géopolitique du terrain et ensuite de ce que c'est qu'une situation de migrant dans le pays, on va dire, qui intervient. C'est-à-dire que dans la simplification, c'est peut-être aussi la volonté pour vous de ramener l'histoire au complet. Parce que la simplification, c'est aussi une occultation. Donc, est-ce que votre travail de cinéaste n'a pas été ça ? De faire la lumière sur des liens d'actualité qui ne sont pas représentés ensemble.
Je ne pensais pas forcément à l'actualité en le faisant. J'essayais juste de le comprendre, en fait, cette situation. Parce que c'est quand même... J'ai rencontré des jeunes gens à Tijuana qui se sont battus en Irak ou en Afghanistan et qui ont été expulsés à la suite de ça. Des jeunes immigrés qui voulaient appartenir au drapeau américain, qui ont risqué leur vie. Alors, c'est des jeunes qui ont commis une faute. Quelle était leur faute ? C'est des gens qui viennent de milieux ouvriers et qui ne pouvaient pas prouver que ça faisait 5 ans qu'ils vivaient aux États-Unis. Donc, ils pensaient qu'en rejoignant l'armée, en montrant des faux papiers, ils pourraient entrer dans l'armée, porter l'uniforme, devenir quelqu'un du pays, se battre pour le pays, se battre pour le drapeau, et que tout ira bien. Il y a eu 8000 expulsés. Il y a 100 000 Green Card Soldier aux États-Unis, et il y a 8000 expulsés. Donc 8000 gamins qui se posent la question de ce qui leur arrive. Et ma question de « est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer l'ennemi ?» vient de là. Parce que si vous êtes un jeune homme et que vous vous battez avec toute votre âme pour un drapeau et que ce drapeau vous rejette, qu'est-ce que vous allez devenir ? Alors, il y en a qui vont peut-être sombrer, mais il y en a d'autres qui vont avoir la haine. Et cette haine va retourner. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vit cette époque-là en plein feu. Quand les hommes politiques simplifient ou qu'ils parlent de Gaulois ou de... Je veux dire, ce qui est beau en France, moi, quand je suis arrivé en France, c'était juste après la révolution en Iran. C'était un pays qui accueillait tout le monde.
On est au moment où...
Aux bras ouverts.
Commence le récit de Majid Cherfi en 79-80.
Non, mais par rapport à... Je dis pas... oui. qu'il avait pas ses fautes. Mais par rapport à aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est plus le même pays. C'était un pays où le multiculturel était quelque chose que les socialistes défendaient.
Et oui, alors là, c'est un peu plus complexe avec Majid Charfi. Justement, j'aimerais que vous nous en disiez un mot, parce que dans Ma part de Gaulois, on échappe à l'angélisme, à la simplification. Il n'y a aucune concession dans votre récit. On ne sait jamais justement où se situe votre narrateur qui est lui-même perdu, parce que certains ne veulent pas s'adapter. Les garçons autour de vous, ils sont d'une méchanceté, puisque c'est votre terme, qui est assez terrible dès ces années 80-81.
Mes copains de quartier.
Oui.
Ben en fait, comme ils échouent et qu'ils n'ont pas eu accès au code, et le premier élément c'est l'école, tout de suite au CP, ça se passe mal et puis ça décroche. Et du coup, moi, je trace, je commence à conjuguer mes phrases correctement. Hein, il est devenu blanc. Harki. Traître, pédé. Alors pédé, c'est pas la connotation homosexuelle, c'est pas viril, quoi. Parce que formuler une phrase en français correctement, c'est être dévirilisé. Et parler mal, c'est être viril. Et dans l'échec, il s'identifie à une négativité. On est arabe. On pense pas, on fracasse. Et Moi, je suis dans cette espèce de tyrannie, tout en essayant en même temps de comprendre ce qui se passe. Mais on est dans l'impossible. On peut pas être à la fois dans l'érudition ou dans son apprentissage et dans l'exclusion. Et donc le fossé se creuse entre eux et moi.
Et quand vous dites justement que l'écriture, c'est difficile parce que vous vous écrivez vous-même et que finalement cette plume, à chaque fois, finalement, c'est une séparation intérieure, c'est une cicatrice qui se réouvre, qui vous sépare des autres. Comment est-ce que, justement, vous jouez, vous, avec cette contradiction? Comment est-ce que vous arrivez à la résoudre?
J'ai attendu. Et parce que chaque fois, j'ai écrit très tôt. Et bon, quand j'ai voulu écrire,
vous avez le stylo à la main, là, vous mimez le geste.
Hein. Ouais.
Bon, déjà,
pauvreté,
on sait que c'est pas sur son ordinateur.
Colère, guerre d'Algérie, fêlure, blessure, névrose. C'était ça, mon écriture. Je dis, mais c'est pas possible. Et je me remets à écrire. Fêlure, racisme, discrimination, névrose, pauvreté. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai rien publié, finalement. Et il y a un moment où, tout à coup, on s'apaise et une ironie a pénétré mon écriture. Et c'est à partir de là que j'ai pu écrire ma blessure, parce qu'elle était teintée d'une ironie née de l'âge, du temps qui passe, et de la distance, et de dire c'est qu'une simple histoire de pauvre.
Mais dès l'enfance, votre écriture, Majid Cherfi, c'est aussi une écriture du désir et de l'amour. C'est si ça éloigne les garçons les plus déçus et désespérés, ça rapproche fortement les filles. Et ça, j'aimerais que vous nous disiez un mot des filles qui sont dans votre récit. C'est une sorte d'histoire parallèle à la vôtre, une histoire cruelle pour elles. On pense au personnage de Bija, mais aussi une histoire aphrodisiaque.
Oui, parce que les mecs, quand ils me voient comme ça écrire, alors il y a les baffes que je prends, et puis il y a « tu veux pas m'écrire un poème, Madji ?» Et ils comprennent que ça accroche les filles. Et moi, du coup, ça me permet de prendre moins de baffes, donc je fais mes petits quatrains. Et puis les filles, j'en écris moi-même aux filles, et pour les filles, écrire c'est « ah !» un prince charmant, et du coup, je suis plus Majid. Je suis blanc, j'ai les yeux bleus, je suis français, doux, cool. Et l'écriture, du coup, elle a aussi cette imagerie-là. La politesse, la douceur, la gentillesse, qui sont les ennemis du cas d'en face.
C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui
prier de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis,
je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du beau.
Le bruit et l'odeur. Le parolier de Zebda s'appelle Majid Cherfi, si vous ne le saviez pas. Il est aussi romancier, ma part de Gaulois. C'est publié chez Actes Sud. L'origine de la chanson, petit rappel historique, nous sommes en 1991. On l'appelle le discours d'Orléans. Il est prononcé par Jacques Chirac et pas encore élu. C'est un homme en campagne. C'est un homme qui dirige ce qu'on appelle à l'époque le RPR. Et quand on relit ce discours, c'est assez fou parce que tout à l'heure, on a commencé avec des mots de Nicolas Sarkozy en campagne pour les primaires dans ses prochaines présidentielles. Un petit peu choqué en France aujourd'hui par ce mot, nos ancêtres les Gaulois, etc. Quand on relit le discours de Jacques Chirac, notre problème ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est pas les Espagnols, les Polonais, les Portugais, mais bon, c'est d'avoir des musulmans et des Noirs. Et puis après, le fameux travailleur français qui rentre dans son HLM, qui est mal payé, les autres ont les prestations sociales. Et si vous y ajoutez à cela le bruit et l'odeur, rire dans la salle. Voilà, c'est ça la séquence.
C'est l'hommage de Mathilde Serrel à Jacques Chirac.
Oui, en tout cas, c'est mon travail.
C'est une partie, c'est une des facettes du personnage.
Mais je trouve que...
Oui, c'était marrant parce que quand on nous le fait écouter à cette époque... Mais non, c'est Le Pen. C'est Jacques Chirac, je te dis... C'est pas possible, on est déjà pas porté à droite. Et moi, je ne le crois pas que Jacques Chirac dise un truc pareil. Et on fait des recherches partout, parce que pour nous, c'est un discours de Jean-Marie Le Pen. Et finalement, il a été plus loin ce jour-là que jamais Jean-Marie Le Pen. Quoi.
Et justement, vous qui étiez dans cette énergie de tout casser, avec Zebda au début, d'envoyer valdinguer un truc vraiment rock profond. Quand vous entendez ce discours, comment est-ce que vous vous mettez finalement à la plume ?
Mon écriture, elle est de toute façon directement liée à cette douleur, à cette névrose de l'exil, de l'immigration, de ces gens à qui on demande une chose inaccessible. Donc une course à la Sisyphe. Pauvres maghrébins de France, vous êtes paumés, vous courez, et vous, tous les matins, vous allez chercher votre francité avec les ongles, vous l'aurez jamais. Et donc moi, je suis infecté, si vous voulez, ou par mes amis, ou par mes parents, de cette espèce de douleur qui fait que mon écriture ne naît que de ça. Et je suis dans une espèce de fatalitum. Je ne peux pas écrire quelque chose d'amusant.
Et ça vous a provoqué, ce discours, par rapport au groupe Zebda? Ils étaient OK avec vous sur ça?
Je pense qu'on n'en est jamais revenu, en vérité. Et donc, on a fait cette chanson. Je ne me rappelle plus de comment ça s'est élaboré, mais je crois qu'on n'en est jamais revenu.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous les trois et à l'orchestre Doom qui est encore là dans les coulisses du studio 108. Merci Rafi Pitz, donc votre nouveau film Soy Nero est déjà sur les écrans depuis aujourd'hui. Majid Cherfi, Ma part de Gaulois, c'est donc publié chez Actes Sud. On peut évidemment se reporter à toute la discographie de Zebda. Et vous, votre discographie, eh bien, s'enrichit d'un vinyle, puisque Zarabi sort demain en vinyle. On pourra l'écouter comme ça sur toutes les platines partout à travers le monde. Et vous serez en particulier demain en concert à La Cigale à Paris.
Le ping-pong est une identité radiophonique qui se tisse en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Léos, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation Thomas Beau. Et à la prise de son ce soir, Nicolas Delmas et David Federman.
Et Anthony Thomasson.
Anthony Thomasson, pardon.
Ils auraient pu être trois. Quant à demain, eh bien nous aurons un seul invité, un ping-pong dans le noir, avec James Ellroy.